Comme un lundi.
En français, comme dans la plupart des langues romanes, le mot lundi est issu du latin lunae dies, signifiant jour de la lune, dit lune en occitan. Actuellement, beaucoup de cultures considèrent le lundi comme le début de la semaine travaillée, juste après le week-end.
Et bonsoir à toutes et à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 1er avril, c'est l'hebdomadaire d'info de Radio Albitzès. Comme un lundi, ben c'est fini. Non, c'est parti. Au sommaire, on parlera du journal Saxifrage dont une publication n'a pas plu à Didier Sirgue, gestionnaire du circuit d'Albi, et qui demande rien moins que 10 000 euros de dommages et intérêts au journal associatif local. Nous entendrons ensuite une entrevue avec Jérôme Pouette, coutelier à Albi, et qui ouvre son atelier ces 6 et 7 avril à l'occasion des journées européennes des métiers d'art. On reviendra ensuite sur la journée La parole est à la jeunesse qui se passait à Carmaux samedi dernier avec la fédération Léo Lagrange. Enfin, nous parlerons du dangereux groupe extrémiste Attaque et d'une de ses militantes, Geneviève Leguet, qui à 73 ans n'a rien à faire dans une manif, cela va de soi. Mais on commence tout de suite ce comme lundi avec les messages que vous nous avez laissés sur la boîte vocale de Radio Albitzès au 05 63 77 61 75.
C'est moi, tu n'es pas rentré.
Bonjour, je m'appelle Christiane Henry, je fais partie d'un collectif qui tente de défendre les établissements médico-sociaux pour handicapés qui sont tout à fait menacés aujourd'hui au nom d'une prétendue inclusion qui sera plutôt une exclusion des établissements pour les personnes accompagnées là. Il nous manque 45 000 places, on veut supprimer celles qui existent. Donc on a lancé une pétition sur change.org qui s'appelle « Urgence, handicap, danger ». Voilà, si vous pouviez nous aider à relayer cette pétition, c'est une pétition qui s'adresse au Premier ministre. On l'a mise en ligne le 1er février. Bon, on est aujourd'hui à 5 000, presque 100 signatures. Voilà. Un grand merci à vous de nous soutenir dans cette démarche. De tenter de préserver nos établissements pour handicapés qu'on a eu tant de mal à construire d'abord, à faire vivre, à faire financer. Voilà, merci par avance. Au revoir.
Alors, troisième partie de mon coup de gueule. Donc j'ai contacté des collègues d'autres départements et ce fut sans surprise. Un tel était trop engagé écolo, l'autre pas assez dépendant, un autre faisait un peu trop voir son appartement sous ses appartenances donc politiques, etc. Eh bien, en termes de démocratie, je crois qu'on peut quand même mieux faire, ou faire mieux si vous préférez. Liberté, égalité et bien entendu fraternité, j'y croirai si j'osais. Merci.
Bonjour. Je suis gêné depuis des années par le mot pédophile. Le mot pédophile, parce que fil, ça veut dire aimer. Alors bon, par exemple, si je regarde, je vais sur Wikipédia, je regarde homophile. C'est marqué « sympathique ou bienveillant à l'égard des personnes homosexuelles ». Or, un pédophile n'est pas spécialement sympathique ou bienveillant à l'égard des enfants. Et j'ai entendu justement François Ozon dans la radio que nous aimons tous, France Inter, l'autre jour, l'autre matin, qui parlait de son film et qui parlait pas de pédophile mais de pédocriminel. Et je pense que ce mot correspond bien, alors que pédophile est un peu un cache-sexe, si vous me permettez le mot cache-sexe, un petit peu comme avant, comme il y a quelques décennies encore, on tolérait, on en rigolait, quoi. Et maintenant, on n'en rigole plus, mais on appelle toujours ça pédophile. Voilà.
Nous sommes les divines biquettes, le monde tourne autour de nous. Nous sommes les divines biquettes, un nuage de mouches nous suit comme des paparazzi. Bé, bé. Les divines biquettes seront au théâtre du Colombier le dimanche 7 avril à 17h. Il s'agit de, en fait, tout bonnement de récit. Sur contrebasse loupée, et c'est un spectacle tragicomique qui nous parle d'aujourd'hui. l'hyper-industrialisation du vivant, du lien entre la domination des femmes et celle de la nature, d'un monde absurde où tout est mécanisé. C'est donc à 17h dimanche au théâtre du Colombier et les tarifs sont 18,5. Bon, c'est pas cher, quoi. J'espère qu'on vous y retrouvera. À bientôt. C'est un spectacle de Dominique Rousseau et de Thierry Desdois, compagnie des Artigrés.
Hop là, on fait une pause dans le flot des messages parce qu'on a eu un peu de mal à comprendre ce dernier message. C'est l'accent chèvre, je crois, qui passe mal au téléphone. Alors on vous passe un extrait du spectacle en question pour se rattraper.
Nous sommes les divines biquettes. Un troupeau de mouches nous suit, comme des paparazzi.
Il était une fois, une divine biquette qui naquit par un beau jour de février. On l'appela 1567, le nom suivant sur la liste du chevrier. La cautérisation n'avait pas fonctionné sur 1567. Un jour, un serviteur en combinaison blanche s'approche d'elle pour lui tâter ses cornes. Deux serviteurs en combinaison blanche viennent nous nourrir, nous servir, nous chérir. Ils ont construit un grand temple dans lequel ils viennent nous adorer. Chaque matin, nous montons à la traîne. Chariot de traite électronique 220 volts spécialement étudié pour les ovins caprins. Fiabilité et simplicité d'utilisation. Excellent rapport qualité-prix. Pour un acier chromé de 30 litres, 1540. Ce gars voit un gros bouton bleu sur le lecteur. D'un coup de sa corne gauche, elle appuie sur le gros bouton bleu. La porte s'ouvre. Elle court. Elle sent sur son pelage le vent du nord qui entremêle ses poils. Ses narines se dilatent sous des odeurs inconnues. Elle entend derrière le martèlement de ses sabots des pépiments d'oiseaux. Elle court. Elle n'a pas l'habitude, mais elle court.
Tiens, voilà la Seguin. Ah, si elle croit que nous, divine biquette, nous avons le temps de nous occuper de toutes ces élucubrations. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ?
Divine Biquette, c'est donc ce dimanche 7 avril à 17h au théâtre Le Colombier, aux Cabanes. Allez, on reprend l'écoute des messages de la boîte locale de Radio Albizès.
Oui, Radio Albizès, voici El Seigneur de Ne banalisons pas la santé, qui vous dit bonjour de ses défis jonquilles et qui vous relie un petit conte du livre de Jean-Claude Carrière, Le Cercle des Menteurs. Cette fois-ci, c'est l'essentiel. Un vieil arabe à l'apparence misérable, mendiant sa vie, s'avançait dans les rues d'une ville. Personne ne lui prêtait la plus légère attention. Un passant lui dit avec un vrai mépris, « Mais que fais-tu ici? Tu vois bien que personne ne te connaît. » L'homme pauvre regarda calmement le passant et répondit, « Que m'importe? Je me connais moi-même et cela me suffit. C'est le contraire qui serait une horreur, que tous me connaissent et que je m'ignore. » Pour mes petits êtres jonquilles, mes petits pétales d'âme qui exhalaient la santé, allez-y, continuez. Moi, je suis au dehors, je profite de soleil. Allez-y, allez-y, il faut profiter. Salut de mon petit pied d'œuvre. Bonne journée à vous, à bientôt. Au revoir.
Allô, 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 allô. Allô, 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 allô.
Merci auditeurs et auditrices pour ces messages laissés sur la boîte vocale de Radio Albizès, la boîte locale. La boîte locale ou la boîte vocale ? La boîte locale. Et sur le répondeur de l'émission Là-bas, si j'y suis, de Daniel Mermet, puisqu'il faut rendre à César ce qui est à César. C'est à Daniel Mermet qu'on a piqué l'idée de vous faire réagir sur notre répondeur. Et on a un peu mêlé vos messages et les messages que les auditeurs modestes et géniaux ont laissés sur le répondeur de Là-bas, si j'y suis. Réagissez à ces messages ou à l'actualité ou encore annoncez vos concerts, vos manifs, vos coups de gueule, vos poèmes. C'est au 05 63 77 61 75 pour la boîte locale, donc celle d'Albizès, et au 01 85 08 37 37 pour le répondeur de Là-bas si j'y suis, à retrouver sur le site la-bas.org. Allez, on enchaîne avec un premier sujet. On va essayer de ne pas tourner en rond autour du pot d'échappement. Waouh, c'est 1er avril, hein, on le sent.
Comment ça va? Comme un lundi. Je sais pas ce que j'ai. Je peux pas travailler.
Sur Radio Albigès, on fait tout pour vous faire aimer le lundi. C'est comme un lundi.
On est, on a croisé sur le complot sur le campus 2019. Là, on vous croise, on vous cueille. Jicabo et Valérie. Alors Jicabo, bonjour.
Bonjour.
Et Valérie.
Bonjour.
Membre de la rédaction, on va dire, c'est ça. C'est comme ça que ça s'appelle, du journal Saxifrage, le journal Casse-Pierre du coin. Donc du coup, casse-pierre, ça veut dire que ça peut être amené à casser des choses. Mais en tout cas, toujours dans l'esprit du coin, on reste ici, on parle d'ici. Et là, ça fait comme, on rappelle juste peut-être l'historique, combien ça fait d'années que Saxifrage existe.
Ben, en fait, on est au 14e numéro et il faut compter à peu près 3 mois par numéro, même si c'est irrégulier. Donc le calcul, c'est quoi? C'est 3 fois 14, ce qui nous fait 42 mois.
Ça va faire 4 ans bientôt.
4 ans, ouais. Quelque chose comme ça.
4 ans, donc une aventure bénévole. Il n'y a pas de salariés. C'est des gens qui écrivent. Il y a un comité de rédaction plus des invités, c'est ça?
Voilà, ouais, avec des contributeurs extérieurs. On invite à ce qu'il y ait des contributions qui viennent du territoire. Et puis après, il y a un noyau dur, une demi-douzaine de personnes qui constituent le comité de rédaction et qui font tourner l'équipe.
Et alors du coup, bénévole, ça ne veut pas dire que ce n'est pas sérieux. C'est fouillé, il y a des enquêtes, il y a du rigolo, il y a du décalé, mais il y a du fond aussi. Et là, on vous prend pour une actualité qui n'est pas forcément la sortie d'un nouveau numéro, mais qui est sur la sortie du dernier numéro, qui commence à faire jaser. En tout cas, il y a une personne qui ça n'a pas plu. Est-ce qu'on peut rappeler juste les faits?
En fait, il faut savoir que donc sur le numéro 13, donc l'avant-dernier numéro de Saxifrage, du coup voilà, le dernier c'est 14, donc l'avant-dernier c'est le numéro 13, on avait consacré un dossier à la problématique du circuit d'Albi, donc voilà, un sujet qui fait grand bruit actuellement.
Il y a des associations, il y a plusieurs élus qui ont pris position.
Voilà, tout à fait, et on s'était dit qu'on allait faire un dossier pour essayer d'apporter un éclairage un peu local, parce qu'en fait ce sujet avait été traité déjà auparavant par des médias nationaux, je pense à M6, notamment France 2 je crois, voilà, par exemple, et l'idée c'était de donner un petit peu la parole aux acteurs, à la fois des élus, donc le maire du séquestre, un élu écologiste, M. Pranière, mais aussi l'association de riverains, voilà, pour apporter un éclairage sur plus local sur ce sujet. Et on a aussi contacté donc à ce moment-là la mairie d'Albi d'une part et la société gestionnaire du circuit NDS Events d'autre part pour essayer d'obtenir leur point de vue, et ils n'ont pas répondu à nos sollicitations. Voilà. Donc on estime avoir fait ce dossier de façon plutôt rigoureuse, en tout cas pour des bénévoles plutôt rigoureuse.
Le contexte de pourquoi ça n'a pas plu justement à la personne qui est un peu citée dans cet article.
Oui, donc c'est monsieur Didier Sirgue qui est connu localement comme le patron de SN Diffusion, une grosse entreprise qui a pignon sur rue dans le Tarn, et c'est un influent homme d'affaires tarnais, et qui par ailleurs est l'un des figures de proue de la société DS Events. Donc pour rappeler le cadre, le circuit d'Albi est sur la commune du Séquestre, mais il est propriété de la ville d'Albi, et la ville d'Albi, par délégation de services publics, en a confié la gestion à la société DS Events, donc à monsieur Didier Sirgue et ses associés. Et donc c'est monsieur Didier Sirgue qui s'estime diffamé par le contenu du dossier, plus particulièrement, bizarrement, par le contenu de l'interview que nous a accordé monsieur Pascal Pranière, donc élu Europe Écologie Les Verts au conseil municipal d'Albi, qui est un peu le fer de lance au sein du conseil municipal de l'opposition à ce circuit d'Albi, et qui du coup est l'interlocuteur privilégié des riverains, qui de leur côté sont également très opposés à ce circuit d'Albi qui leur pourrit la vie, clairement. Donc voilà, ils s'estiment diffamés par l'interview que nous accordait un élu de la République. Et il y a des lignes entières qui sont incriminées, donc c'est pas comme souvent dans une affaire de diffamation une phrase qui prête à contestation. Là c'est des tartines entières, en fait c'est le fond purement et simplement de l'interview qui est incriminé, Et donc ça ressemble plus à un crime de lèse-majesté. Je ne pense pas que ce soit passible de poursuite devant les lois de la République. C'est un crime de lèse-majesté plus qu'une histoire de diffamation. Nous, on a les éléments du dossier grâce aux riverains, à l'association de riverains qui fait un gros travail, grâce à Pascal Pranière qui a instruit le dossier également pour avoir des éléments, grâce à ce qu'a dit M. Poujade, le maire du séquestre. Voilà, on a recueilli un peu tous les points de vue. Bon, malheureusement, effectivement, on n'a pas eu le point de vue du propriétaire du circuit, la mairie d'Albi, qui n'a pas daigné nous répondre, ni le point de vue de la société d'IS Events, qui n'a pas daigné nous répondre. Le paradoxe, c'est que ce soit la ville d'Albi ou Monsieur Sirgue, c'est des gens qui ne semblent pas considérer Saxifrage comme un média digne de recueillir leur point de vue quand on les sollicite, mais qui, une fois que le papier sort, se réveillent et nous considèrent cette fois comme un média quand il est venu le temps de nous traîner en justice pour diffamation. Donc, si on est vraiment un média susceptible de nuire à leur réputation et à leur honorabilité sur le territoire, il faut nous considérer comme média déjà avant, et du coup quand on sollicite leur point de vue, nous le donner, et on l'aurait restitué sans renier notre point de vue. Évidemment que le comité de rédaction est plutôt critique sur l'existence de ce circuit, mais pour autant il nous aurait donné son point de vue, on l'aurait restitué comme valant ce qu'il vaut, hein, c'est-à-dire de notre point de vue pas forcément grand chose, mais digne en tout cas d'être, pour avoir une vue un peu panoramique de l'histoire, digne d'être reproduit.
Et alors, ils vous considèrent comme un média très riche, puisqu'ils vous demandent 10 000 euros, c'est ça, de dommages à intérêts, comment ça se...
Oui, 10 000 euros, voilà, c'est la somme qui nous est demandée, dans le cas, évidemment, où on perdrait. Ouais. Alors, il faut savoir qu'il y a deux dimensions, en fait, dans cette affaire. Il y a une dimension juridique et une dimension financière. Sur le plan juridique, nous, on pense avoir fait un travail rigoureux, et c'est vraiment cette position qu'on va défendre lors du procès. Donc ça, là-dessus, il n'y a rien de plus à dire, quoi. Mais par contre, sur la dimension financière, c'est assez intéressant, parce que nous, on vit ça en fait comme une forme d'intimidation pure et simple, puisqu'il y a une démesure extraordinaire en fait entre la somme qui nous est demandée, donc 10 000 euros, et d'une part les faits qui nous sont reprochés, et d'autre part aussi le fonds de caisse, hein, dont on dispose, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, on est une organisation bénévole qui s'autofinance, donc on a un fonctionnement financier qui est relativement rudimentaire, des caisses qui sont pas, on n'est pas plein aux as, quoi, on fait notre truc d'un numéro sur l'autre, et donc il y a vraiment, voilà, véritablement une démesure entre ce qui nous est demandé et l'argent dont on dispose. Qui plus est, même si on perdait ce procès avec une somme symbolique à payer du genre 1 euro, ça représenterait quand même pour nous une condamnation, puisqu'il faudrait s'acquitter des frais d'avocat. Et les frais d'avocat sont aussi exorbitants, c'est de l'ordre c'est minimum 5 000, 6 000 euros. Donc voilà, c'est pas non plus dans nos moyens, quoi.
Bizarrement, Libé a consacré, là, il y a quelques mois, une double page à la polémique autour du circuit d'Albi. Monsieur Didier Sirgue a eu la sagesse de ne pas s'attaquer à Libé avec son bataillon d'avocats. Par contre, quand il s'agit de Saxifrage, il se dit que peut-être c'est une proie à sa portée. Mais effectivement, c'est sans commune mesure. Nous, en termes de trésorerie, on a, c'est un journal, il faut le rappeler, même si c'est l'évidence, qui ne touche pas de subvention, bien sûr, et qui n'a aucune recette publicitaire. Il n'y a pas de pub dans Saxifrage. Donc nous, la trésorerie, c'est ce qui permet en général de financer le numéro suivant. Et comme ça, de fil en aiguille, grâce aux abonnés et aux ventes directes. Donc là, effectivement, 10 000 euros de dommages et intérêts, 7 000 euros de frais d'avocat, c'est la mort d'un journal local. Et bon, je pense pas que ça contrarie beaucoup notre adversaire, hein. C'est parce que, comme tu l'as rappelé, journal casse-pierre du coin, c'est la vocation même de Saxifrage d'être un peu un des poils à gratter dans l'information locale, en apportant un point de vue critique qui peut passer par une forme plutôt satirique ou littéraire, comme une approche plus documentaire, interview, faire parler les acteurs, voilà, apporter un point de vue différent sur ce qui se passe dans ce territoire. Au-delà du fond, même si sur le fond on est droit dans nos bottes, on n'a pas diffamé. Tout ce qu'on a avancé ou tout ce qu'avancent les gens qu'on interview, c'est des choses qui sont maîtrisées, qui sont documentées. Viendra le moment un jour de produire les preuves. Là, c'est encore trop tôt pour le faire parce que le procès n'a pas eu lieu. Mais au-delà de ça, il y a un vrai problème de fond qui est voilà, l'intimidation d'un notable local envers un média indépendant. On a déjà pu subir des représailles plus officieuses, plus mesquines, de la part d'employeurs, de voisins, de tel ou tel contributeur qui savait que un papier de Saxifrage venait de telle ou telle personne. Donc il y a eu des choses officieuses et de l'ordre de la représaille. C'est déjà arrivé parce qu'on n'écrit pas pour être complaisant. Là, c'est la première fois que ça se passe devant un tribunal. Et du coup, on rentre dans une autre échelle, dans une autre logique qui a de quoi faire frémir en fait sur le principe.
Alors justement, devant le tribunal, qu'est-ce qui se passe et quand est-ce que les gens peuvent déjà continuer à s'informer du fond du dossier, puisque le dossier, il est toujours le dossier dont on parle, incriminé, on peut le lire.
Ouais.
Et ensuite, comment on peut venir vous voir, vous soutenir ou vous questionner si on n'a pas trop compris le fond de l'affaire et le tribunal, c'est quoi les rendez-vous?
Le dossier est en ligne sur le site saxifrage.fr, donc on met pas l'intégralité des numéros, mais là, pour le coup, pour aussi montrer notre bonne foi et notre rigueur, notre méthode.
Même aussi, on peut aussi le trouver évidemment sur le numéro 13.
Voilà, il n'est pas censuré. Hein,
non, coup, voilà, pas du tout. Donc, dans un point de vente, on peut encore trouver le Saxifrage numéro 13 et donc retrouver le dossier. Et donc, après, le 2 avril, donc, on est invité à une séance de co-signation. Donc, la co-signation, c'est le moment où le tribunal prend acte de l'engagement des parties dans le procès et où il va nous délivrer en fait, des échéances en fait, dans le futur pour les plaidoiries. Et on aimerait inviter en fait, à tous les auditeurs d'Albigès qui souhaitent à la fois nous soutenir et peut-être par extension soutenir la liberté de la presse à venir le plus nombreux possible. Donc c'est le 2 avril donc, au tribunal correctionnel d'Albi à 14h pour montrer tout simplement leur soutien, pour montrer aux juges que la presse libre ne se laisse pas intimider par le pouvoir de l'argent.
Du coup, c'est l'occasion de se rabonner.
Au-delà de ça, effectivement, il y a la dimension de pécuniaire et du soutien financier. Donc, les dommages et intérêts, la loi interdit de faire des collectes pour payer des amendes ou ce genre de condamnation, et donc on ne le fera pas. Par contre, là où le soutien peut être utile, c'est pour payer les frais de justice, c'est-à-dire les frais d'avocat. Et pour ces frais-là, qui à eux seuls, comme le disait Valérie, peuvent suffire à nous écraser financièrement, là, le meilleur soutien qu'il puisse y avoir, c'est que les gens se réabonnent, parce que ça fait plus de trésorerie que l'achat à l'unité au fil des sorties des numéros. Abonnent des amis dont ils pensent que ça pourrait être des lecteurs, et donc ça élargit à la fois notre diffusion, ce qui est toujours la difficulté pour un média indépendant, c'est pas la fabrication, c'est la diffusion. Donc élargir notre diffusion et nous permettre d'engranger assez de trésorerie pour faire face aux frais de justice. Et puis viendra un moment où, s'il le faut, on lancera peut-être une cagnotte en ligne, peut-être qu'on fera une fête de soutien sur la commune du séquestre, et je pense qu'on devrait rencontrer pas mal d'échos et pas mal de soutien localement voilà, pour occuper la place publique et faire connaître à la fois notre travail journalistique amateur et néanmoins professionnel au niveau de l'exigence qu'on y met. C'est pas un fanzine, hein, c'est un vrai journal. Et en même temps, le fond du dossier dans la commune qui est la principale concernée, même si le bruit du circuit d'Albi, y a pas besoin. Enfin, ça s'arrête pas à la frontière, c'est comme le nuage de Tchernobyl. Hein, ça s'arrête pas à la frontière entre le séquestre et Albi. À Albi aussi, ça nous pourrit les oreilles. Hein. Mais donc voilà, c'est sur la dimension financière, ça peut être à court terme d'abonner les copains pour les auditeurs, les auditrices qui veulent nous soutenir, et puis viendra un moment sans doute où on fera ça d'une manière plus festive et plus spectaculaire sur la place publique. On y travaille.
Et puis, pardon, il y a une autre façon de nous soutenir qui consiste aussi tout simplement à diffuser l'information, hein, à se munir par exemple du communiqué de presse, à le diffuser, à en parler autour de soi. C'est pour ça aussi qu'on est content aujourd'hui là de parler sur Albigès, parce que c'est une façon aussi de diffuser cette information. C'est la vocation d'un journal au départ, c'est cette vocation qui est attaquée, donc on continue à diffuser cette information. Et, ça fait partie aussi des façons d'agir à côté de la dimension financière.
Ok, donc rendez-vous mardi 2 avril à 14h devant le tribunal d'Albi.
C'est ça.
Voilà. Merci à vous deux.
Merci.
Merci à Valérie Ejikabo, membre de la rédaction du journal Saxifrage, rencontré lors de l'éco-festival Complot sur le campus à l'Université Champollion d'Albi, c'était vendredi dernier. Pour trouver le journal Saxifrage sur Albi, c'est possible au Frigo, au 9 rue Bonnecambe, sur Albi donc, au Poulet de la Pampa, 216 avenue Colonel Tessier, à la librairie Clair-Obscur, au 22 rue Sainte-Claire, et au tabac presse La Civette, au 16 rue Mariès notamment, à retrouver aussi sur www.saxifrage.fr. et demain mardi 2 avril à 14h devant le tribunal d'Albi. Évidemment, si vous êtes partisan du circuit d'Albi et de toute forme de vroom vroom en boucle que vous appelez tradition alors que le moteur à explosion n'a que 160 ans, soit une poussière dans l'histoire de l'humanité, que les biocarburants suppriment des terres agricoles nourricières et que les moteurs électriques sont nucléaires, vous pouvez toujours vous rendre sur la page Facebook intitulée Contre les riverains qui se plaignent du circuit d'Albi, et vous aurez alors tout loisir de diffamer les écolos de tout poil à longueur de journée entre deux courses automobiles, bien sûr. À suivre.
Et maintenant, que faire maintenant?
Ben, on reste calme et on continue d'écouter Comme un lundi sur Radio Albi 6.
Mais je m'appelle Jérôme Couette, j'habite à Albi, j'ai un peu plus de 40 ans et j'exerce un métier qui est celui de forgeron coutelier ou de coutelier forgeron comme on veut, j'ai pas encore réussi à trouver le bon ordre. Voilà, donc je suis installé à Albi dans la rue des Brus, dans le quartier de la Maladrerie, et j'ai deux enfants et puis une femme et on vit et on travaille à cet endroit-là, voilà, à domicile.
Du 1er au 7 avril, ce sont les journées européennes des métiers d'art, avec un peu partout en France des rencontres avec des artisans verriers, geôlières, ferronniers, relieuses et bien d'autres. À cette occasion, nous avons rencontré Jérôme Couette, alias Lou Coutel, pour nous parler de son métier sur Albi.
Alors ça fait pas très longtemps par rapport à ta vie, dans toute ta vie, ce que tu fais, ce métier. Comment tu t'y es intéressé, depuis quand?
Alors je m'y suis intéressé depuis assez longtemps, en filigrane on va dire, mais réellement depuis que je suis arrivé à Albi, donc en 2009, et puis de plus en plus sérieusement, jusqu'à avoir un minimum d'outillage pour pouvoir pratiquer. Mais depuis toujours, en fait, j'ai grandi dans une maison où on se chauffait au feu et la cheminée, il y avait une cheminée ouverte. Donc, déjà, à 5 ans, je faisais rougir les tisonniers pour essayer de les, non pas de les déformer, de les tordre un petit peu, quoi. J'ai jamais été plus loin. Voilà, et puis j'ai toujours été attiré par le feu et aussi la matière. Après, j'ai fait des études, donc des études techniques d'ingénieur généraliste. Donc ça allait aussi dans ce sens-là, de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la matière, comment la physique explique certains comportements. Et puis j'ai fait de la fonderie un petit peu. Et puis de la fonderie, je suis passé à la forge. Et au couteau, parce que c'est un outil qui me plaisait depuis toujours, que j'utilisais quotidiennement. Pour moi, c'est un outil multifonction, pas que dans la cuisine, quoi. Beaucoup en bricolage aussi, voilà. Et pourquoi le couteau? C'est aussi parce que c'est un objet de petite dimension qui est facilement réalisable dans un... avec un minimum d'équipement et une place minimale, parce que aujourd'hui mon atelier est petit, donc je ne peux pas faire de la grosse ferronnerie, ça ne rentre pas, voilà.
Coutelier, forgeron, des fois il y a peut-être des gens qui se font des idées de... C'est celui qui aiguise, c'est celui qu'on voit sur les marchés qui arrive avec les rémouleurs, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas le métier, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas?
Alors effectivement, un coutelier c'est pas un rémouleur, le coutelier il va affûter et aiguiser ses couteaux évidemment, et évidemment il peut affûter et aiguiser ceux des autres, même si parfois il peste, mais c'est pas le même métier, puisque faire un couteau, donc on part d'un morceau de métal pour arriver à faire un objet tranchant qui a des caractéristiques de souplesse, de dureté, donc c'est vraiment la fabrication de l'objet, c'est pas son entretien, son soin comme le rémouleur. Voilà. Mmh. Ensuite, ce que ça n'est pas, ça n'est pas du rapide. c'est beaucoup de temps. Ça, souvent, les gens pensent que voilà, ça peut se faire rapidement, en 2 heures, on peut avoir un couteau. Non, non, c'est pas vrai. C'est plutôt de l'ordre de 2 jours au minimum. Voilà. Parce que ça n'est pas, après, ça n'est pas...
Ça n'est pas de l'industriel, du coup.
Ah non, ça n'est pas de l'industriel. Non, non. Il y a vraiment, là, c'est vraiment fait. C'est un par un, au marteau. Donc, il faut s'imaginer qu'on a une barre. Couramment, j'utilise des barres de 6 mm d'épaisseur. Et il faut arriver avec cette barre à la ramener à 2 mm, 3 mm quand c'est un gros couteau, et lui donner sa forme. Donc, c'est pas du tout de l'industriel, c'est pas du tout de la grosse production. Ça m'arrive de faire des séries, donc du travail en série, c'est 6 lames maximum.
Pour une famille, quoi.
Voilà, donc quand je fais des services, c'est 6 lames. Et voilà, j'en ai pour plus d'une semaine. Donc c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec... c'est pas de l'industrie, c'est classé dans l'artisanat d'art.
L'artisanat d'art, on va en parler dans l'Albigeois. Qu'est-ce qui va se passer? Et toi, qu'est-ce que tu vas proposer dans les prochains jours? Si tu peux dire un peu qu'est-ce que tu vas proposer sur le 6 et 7, je crois.
C'est ça. Donc, samedi et dimanche, 6 et 7 avril, ce sont les GEMA, les Journées Européennes des Métiers d'Art. Donc, partout en Europe, les artisans d'art ouvrent leur atelier ou alors se regroupent en manifestation pour promouvoir leur travail. Souvent, ce sont des métiers oubliés ou des métiers très très rares. Donc, l'idée, c'est de un petit peu de pas abandonner ces artisans-là. Alors, il peut y avoir, ça va des gens qui, des luthiers par exemple, des forgerons, les souffleurs de verre, les potiers, enfin, tous ces métiers qu'on connaît plus ou moins bien. On a quand même une petite étincelle dans l'œil quand on voit quelqu'un travailler. Alors quand on voit le produit fini, on ne se rend pas spécialement compte. Ni du temps, ni de l'adresse, ni de la technique, tout ce qu'il y a derrière, quoi, qui est arrivé siècle après siècle, c'est un héritage qu'on a en fait. Mais quand on voit déjà un atelier, c'est joli. Enfin, moi je trouve que ça y a la personnalité des gens qui transparaît, il y a une organisation, il y a des choses. Et puis quand on voit à la fois le lieu et le travail qui y est fait, on comprend beaucoup mieux la valeur de l'objet. Et je dis valeur, pas dans le sens pécunier du terme. Hein. Là, c'est un objet qui va sortir à la fois des mains de l'artisan, du savoir et d'un lourd, lourd, lourd héritage. Voilà. Et donc, oui, je l'ai dit, c'était donc le 6 et 7 avril. Alors les horaires, c'est 11h-19h. L'adresse, c'est 70 rue des Brus, dans le quartier de la Maladrerie.
Alors du coup, qu'est-ce qu'on y fait? On vient te voir travailler, on peut même peut-être passer la main à la pâte un peu,
oui.
En tout cas pour certains gestes simples.
Oui, voilà. Alors après, on ne veut pas utiliser ni des machines tournantes qui sont dangereuses, mais pour le marteau, il n'y a pas de souci. Hein, il suffit de garder l'autre main dans le dos pour ne pas se taper sur les doigts. Et alors, ça dépendra un petit peu en fonction de l'envie des gens. Et puis, évidemment, s'il y a beaucoup, beaucoup de monde, tout le monde ne pourra pas travailler. Mais oui, alors je prévois un petit peu de forge, voir pour montrer comment la matière réagit sous le marteau. On ne va pas faire un couteau en un quart d'heure comme ça. Ouais. Et puis aussi, je proposerai des démonstrations d'aiguisage. Voilà. Alors, j'utilise des pierres, donc à la pierre naturelle, essentiellement une pierre belge qui a un grain très très fin et qui permet d'avoir un aiguisage parfait, un aiguisage rasoir.
Est-ce qu'il y a une différence entre affûté, aiguisé? Il y a les fusils que tout le monde a dans son tiroir, là. Voilà. Là, toi, tu fais à la pierre. Quelle est la différence?
Alors, affûté, aiguisé, affilé, la nuance, elle est très très fine. Il n'y en a pas vraiment, je pense que c'est à peu près synonyme. Après, il y a un mot que je trouve qui n'existe pas dans le dictionnaire, donc c'est ce qu'on dit émouler, ça a disparu, mais le fait de faire une émouture, donc l'émouture, c'est la forme de la lame. Traditionnellement, on a un biseau, mais on peut avoir une émouture creuse, il y a des émoutures un peu spéciales, donc c'est le profil de la lame, l'émouture. Donc ça, c'est vraiment le métier du coutelier, il le fait une bonne fois pour toutes. sur la meule. Alors avant, c'était des meules en pierre qui tournaient, actionnées par des moulins en haut. Hein. Et donc, en appuyant très fort, avant que le couteau ne soit durci par la trempe, on donnait la forme à cette lame. On passait d'un brut de forge qui avait une épaisseur, on va dire, de 1 mm en bout de lame, pour ramener cette épaisseur à quasiment zéro au bout. Donc ça, c'était le travail d'émouler. Et ensuite, l'aiguisage, l'affûtage ou l'affilage, c'est une fois qu'on a cette forme, on va vraiment affiner le tranchant et le polir, tout simplement. Voilà. Alors pourquoi la pierre? Pourquoi la machine? J'utilise aussi la machine, une machine tournante avec des bandes abrasives, ce qui est l'équivalent de la meule à eau, en fait. Alors c'est important d'avoir de l'eau ou de ne pas trop chauffer. Si on chauffe trop une lame, elle perd sa trempe, donc elle est molle, elle devient molle. Et c'est irréversible. Enfin, il faut retremper le couteau, démonter le manche. Donc c'est pour ça qu'il ne faut vraiment surtout pas aiguiser un couteau au touré à affûter que certains ont dans leur garage, parce qu'ils tournent à 3000 tours minute. Et la lame, elle va devenir bleue en 3 secondes. Donc ça, on oublie. Moi, je ne suis pas partisan du fusil parce que ça. Alors, déjà, il y a fusil et fusil. Un bon fusil, c'est pas facile à trouver. Et ça crée des micro-dents, en fait, dans la lame. Donc, c'est le principe, c'est d'avoir une espèce de. Un peu une scie à métaux, vous voyez. Donc, on a une lame qui est dentée. Évidemment, elle va arracher. Elle va découper. Hein. Les bouchers découpent leur viande comme ça. Mais c'est entre la scie et le couteau, quoi. C'est une scie à dents très, très fines. Et quand on utilise une pierre, alors c'est vraiment des pierres, on passe la main dessus, c'est doux comme une feuille de papier. Hein, là, on va polir la matière pour arriver presque, oui, dans les pierres les plus fines, on est à une poussière, une boue qui fait 5 microns. Donc on est vraiment dans du très 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 fin pour arriver à avoir quelque chose qui va glisser sur l'objet qu'on coupe.
Garde ta fourchette.
Jérôme Couette ouvre donc son atelier de forge Loucoutel à Albi de 11h à 19h, c'est samedi 6 et dimanche 7 avril, au 70 rue des Brus, BRUS. Retrouvez plus d'informations sur sa page Facebook Loucoutel Coutelier et d'autres informations sur les Journées Européennes des Métiers d'Art sur le site www.journeesdesmetiersd'art.fr. Et on reparlera bientôt de Jérôme sur nos ondes.
Et si tu es sage, mais vraiment très sage, t'auras un petit couteau, mais qui coupe pas trop.
Allez, on arrête un petit peu de faire la tête, c'est comme lundi sur Radio Habit 6.
Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. »
Et on retrouve tout de suite quelques échos de la journée « La parole est à la jeunesse » qui se déroulait samedi dernier à Carmo, au Club Ciné.
Radio Albigès, installé au Club Ciné de Carmo ce samedi 30 mars pour la 12e édition du festival « La parole est à la jeunesse » organisé par la Fédération Léo Lagrange Tarn. Et on se retrouve en compagnie de Hélène Roger. Hélène, bien le bonjour.
Bonjour.
Donc tu es présidente de la Fédération Léo Lagrange.
C'est ça.
Et on est en compagnie de Béatrice Pagnard. Béatrice, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes vous administratrice de la Fédération Léo Lagrange Tarn. Donc 12 ans déjà, un bon petit bonhomme de chemin, Hélène.
C'est vrai que le bébé a grandi, on l'a vu évoluer à Groyé, puis à Bastens. Et aujourd'hui, pour la première année sur le territoire du Carmozin, dans ce beau cinéma que je ne connaissais pas, le Club Cinéma.
Oui, le cinéma est superbe pour accueillir un festival comme ça de court-métrage pour les jeunes.
Ah, oui. C'est un bel écrin, oui. Je suis d'accord.
Oui, on est vraiment ravis. On a un très bon accueil. Dès le départ, on a vu qu'il y avait une vraie volonté de mettre à l'honneur ce festival. Et ça nous a paru aussi très intéressant d'être dans un cinéma comme ça qui promeut tout ce qui est action en lien avec la jeunesse.
C'est la seconde journée du festival parce que hier, vendredi 29, c'était une journée consacrée exclusivement au public scolaire.
Tout à fait. Donc c'était une première pour nous. de développer ce qu'on a appelé le blabla ciné, qui permet aux jeunes des établissements scolaires du secteur de pouvoir s'informer et d'échanger sur les métiers tournant autour du cinéma.
Béatrice, vous étiez présente pour cette journée. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur Kézako, le blabla ciné, comment ça s'est passé ?
Alors, il s'agit d'accueillir des jeunes qui sont en quatrième. L'objectif, c'était de leur permettre, à cet âge où ils doivent réfléchir à leur avenir professionnel, d'avoir des outils, des informations pour connaître un petit peu plus ces métiers qui peuvent les passionner pour certains. Donc, on avait comme objectif de faire venir des intervenants dont c'est le métier, qui allait apporter un regard professionnel, des astuces, répondre aux questions, enfin d'avoir quelqu'un physiquement en face d'eux, avec des petites anecdotes, avec le matériel, qu'ils puissent vraiment voir comment ça fonctionne. Et ils ont évolué comme ça autour de trois métiers qu'ils ont choisis en classe avant de venir. Et on a fait comme ça évoluer plusieurs groupes toute l'après-midi.
Et peut-être, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur pourquoi avoir eu envie de créer un festival comme ça pour donner, ça s'appelle La Parole est à la jeunesse. C'est en lien avec du coup la fédération départementale Léo Lagrange. D'où c'est venu l'idée de ce festival ?
Alors l'idée du festival est née tout simplement d'avoir la sensation que sur les territoires, on n'entendait pas assez la voix des jeunes. On entendait beaucoup de gens parler des jeunes, mais au final, on entendait peu leur voix. Le but du jeu dans un mouvement d'éducation populaire comme le nôtre, c'est d'amener par l'éducation accessible à tous des moyens d'expression, des moyens d'expérimentation pour se confronter au monde réel, à la vraie vie. Et donc ce festival nous paraissait, en tout cas la thématique de partir sur l'éducation à l'image nous paraissait assez pertinente.
On n'a pas parlé des ateliers qui sont là aujourd'hui aussi. Alors évidemment, il y a un atelier pour donner son avis et ses impressions sur radio. C'est celui qui est animé par Radio LBGS. Et on a pu entendre donc tous les réalisateurs, réalisatrices, les jeunes réalisateurs et réalisatrices qui sont venus ensuite parler de leurs films à la radio. Donc ça peut leur donner un exercice aussi pour plus tard s'ils ont envie de continuer dans cette voie-là. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit aperçu un petit peu de tous les ateliers auxquels ils peuvent participer cet après-midi ?
Il y a eu votre atelier, mais également les photos avec incrustation sur fond vert. Donc chacun a pu s'essayer en faisant de belles poses et de beaux sourires sur le fond vert et de pouvoir incruster les images de rêve. Hein. On nous a parlé de destinations paradisiaques. Mm-hmm. Comment fabriquer un petit film d'animation, découvrir certains logiciels, faire du light painting ou travailler avec une imprimante 3D, notamment en collaboration avec le Fab Lab.
Ok. Alors moi, j'aimerais peut-être revenir un peu sur la fédération Léo Lagrange, sur ce festival du film, sur l'éducation populaire, pour dire qu'en fait, on a quand même des points en commun, on a beaucoup de points en commun avec la fédération Léo Lagrange et Radio LBGS, concernant notamment l'éducation aux médias et à l'information, puisque, comme je disais tout à l'heure avec les jeunes du collège Albert Camus, aussi apprendre à construire un film, à monter un scénario, à faire du cadrage, du montage, c'est aussi mieux comprendre comment se font les films d'aujourd'hui et aussi les médias. Et ça, c'est important de mieux comprendre le monde dans lequel on vit.
Ben, tout à fait, c'est un vrai plaisir de voir ces jeunes comprennent, qui utilisent des techniques qui sont finalement celles de l'outil multimédia. Et comme ça, quand ils vont voir des films, quand ils vont voir des publicités, ils vont pouvoir décrypter un petit peu plus comment ça s'est produit, quel est le message réellement qu'on voulait leur donner. Et tout ça, c'est une manière aussi de comprendre un peu mieux le monde dans lequel on fonctionne. Et c'est vraiment important pour l'émancipation de chacun, d'avoir une connaissance des outils qui sont le plus utilisés actuellement, les médias visuels, ils sont inondés de tout ça. Alors chaque jeune est en capacité de réaliser des petits outils multimédia avec des petits films, des photos avec leur smartphone, mais réaliser un film comme ils ont fait, comme un court-métrage, c'est totalement différent parce qu'il y a le scénario, il y a comment est-ce que le public va comprendre la chose, il y a le travail en équipe, il y a plein d'éléments qui font qu'en fait ça sera beaucoup plus complexe que de réaliser un petit film. Et donc l'expérience est très très enrichissante pour eux.
Et en plus on voit que même s'ils n'ont pas les outils à la maison, il y a tout un réseau d'associations dans tout le département et ici à Carmo, qui leur permettent justement de savoir les utiliser et d'en avoir accès. On voit le Fab Lab aujourd'hui qui est présent aussi à Carmo, qui va proposer en dehors du festival aussi à de nombreux jeunes de pouvoir utiliser ces nouveaux matériels multimédia.
Je crois que c'est notre atout majeur d'être Fédération d'éducation populaire, c'est d'être dans un réseau. Et ce réseau permet de mutualiser des espaces, du savoir-faire, du matériel. Et entre autres, le dispositif passeur d'image nous a permis de bénéficier de prêts de matériel, d'ordinateurs, avec tous les bancs de montage nécessaires à faire un film dans de bonnes conditions, ou en tout cas dans des conditions professionnelles. On a pu, avec le Fab Lab, on a d'autres coopérations. Je crois que ce qui est vraiment important aujourd'hui et ce qui est important pour nous à Léo, c'est d'être dans ce système de mutualisation et d'aller ensemble sur des projets communs et de porter des valeurs communes.
Peut-être une question, puisque là c'est la première année donc qu'on fait ce festival, que vous organisez ce festival ici au Club Cinéma de Carmaux. Est-ce que c'est amené à se reproduire l'année prochaine dans le même lieu, ou est-ce que vous restez sur cette idée de se balader dans le département comme ça pour aller investir des nouvelles villes, des nouveaux villages?
Alors l'itinérance est un sujet de toujours.
De réflexion.
Tout à fait. Donc nous sommes restés de nombreuses années sur Groyer puisque nous avions encore notre siège social là-bas et que les connexions avec le monde culturel communal étaient possibles. Puis le festival s'essoufflant par manque d'ajouts, de nouveaux partenariats, on a décidé de faire en sorte qu'il soit itinérant et on se donne 3 ans. Sur chaque site pour se développer. La première année, il faut bien faire connaissance. L'année suivante, on s'améliore pour arriver à quelque chose de bien, voire très bien, la dernière année. Voilà, donc c'était un peu le schéma.
Mais il est déjà très bien, je trouve.
Oui, mais nous, comme on est au cœur de l'organisation, on a repéré des petites choses qui sont perfectibles, voilà. Même si on a vu que les gens avaient du plaisir à être là, qu'il y avait du monde, qu'il y a une bonne ambiance, il y a du sourire, il y a des jeunes, donc on est très contents. Hein.
On est toujours plus difficile avec soi-même, c'est comme ça. Et du coup, peut-être, est-ce qu'on peut commencer à lancer un message pour les personnes qui seraient intéressées pour participer l'année prochaine, vu que c'est quand même appelé à se renouveler? C'est quoi les conditions de participation pour ce festival et comment on fait pour participer? Donc du coup, pour les prochaines éditions, s'il y en a qui ont envie...
Alors, il y a déjà des jeunes, en effet, qui sont venus hier au Blabla Ciné et qui sont motivés, qui sont revenus aujourd'hui pour voir le festival. Donc, on voit que ça porte ses fruits. Et les conditions, c'est d'être un groupe de jeunes avec entre 15 ans et 30 ans. Donc, il faut au minimum que dans le groupe, il y en ait un qui ait 15 ans. C'est la petite astuce à connaître. Pas tous forcément avec 15 ans, mais au moins un dans le groupe qui a 15 ans. Et puis après, avoir envie, être assez mobile aussi, puisque parfois, ils sont obligés de se déplacer. C'est être capable de s'engager dans un groupe aussi, c'est pas toujours évident. Et voilà, après les moyens, c'est nous qui les fournissons, et l'accompagnement, c'est nous qui le fournissons aussi.
Et alors malheureusement, si on n'a pas eu la chance d'être ici pour la projection de ces films au Club Cinéma de Carmaux, on peut quand même les voir sur Internet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'il faut aller donc, pour voir tous ces films qui ont été présentés cette année, peut-être les années précédentes d'ailleurs, on pourra voir les œuvres présentées l'année d'avant?
Alors, je ne suis pas au fait totalement de cette information, mais par contre, je sais qu'on a un compte Facebook et on met dessus les vidéos et aussi peut-être, je ne suis pas sûre à 100%, mais je pense qu'elles sont aussi sur le site internet de Léo Lagrange-Tarn. En tout cas, elles sont diffusées.
Sur la chaîne YouTube.
Voilà, c'est ça, chaîne YouTube de Léo Lagrange.
Tarn. Donc si on cherche Léo Lagrange, la parole est à la jeunesse Tarn, on devrait pouvoir trouver les vidéos qui ont été présentées.
Je suppose, okay. Voilà.
Ben, merci beaucoup à vous. Est-ce que vous voyez une dernière chose à rajouter peut-être?
Non, un grand merci peut-être à la ville de Carmaux et à la communauté de communes du Carmauzin et du Ségala qui nous accueillent, et ainsi que ce très beau cinéma. Merci à son directeur et à son gérant. Merci.
Et merci à vous.
Merci bien, Hélène Roger, donc présidente de la fédération Léo Lagrange Tarn, et Béatrice Pagnard, administratrice. Merci.
Merci, merci à vous.
Retrouvez la totalité des entrevues qu'Arnaud et Paul ont effectuées samedi dernier. Ce sera sur nos ondes demain mardi à 8h du matin et rediffusion ce vendredi 5 avril à 14h.
C'est toujours comme un lundi sur Radio Albitzès. Bon appétit si vous êtes à table.
On va manger des chips.
Ah, c'est chouette ça.
T'entends? Des chips.
Le samedi 23 mars dernier, à Nice, une femme de 73 ans, Geneviève Leguet, armée d'un drapeau séditieux et proférant des slogans subversifs, a violemment agressé des jeunes membres du service d'ordre. Au cri de « liberté de manifester », elle s'est jetée au sol, elle se serait blessée et aurait été conduite à l'hôpital grâce à la diligence de la police et des pompiers de Nice, la ville dont M. Christian Estrosi est le maire. Une enquête rassurante est en cours, aussitôt prévenue. Le président de la République, Emmanuel Macron, lui a adressé ses vœux de prompt rétablissement. On devait ensuite découvrir que cette femme appartenait au réseau ATTAC, un groupuscule qui vient s'ajouter au mouvement des autonomes et des Black Blocs, responsables des violences et des destructions depuis des mois en France. Cependant, soutenu par des groupuscules de l'ultra-gauche, ATTAC appelait à manifester le mardi 26 mars dernier. Nos confrères du site labas.org ont pu s'infiltrer dans cette manifestation. On écoute.
Nous sommes place de la République à Paris, avec de nombreuses associations, organisations syndicales, partis politiques, pour exprimer notre solidarité à Geneviève Leguet, cette militante d'ATTAC, mais aussi membre de plein d'organisations à Nice, qui a été blessée par une charge policière extrêmement violente ce samedi à Nice, parce que simplement elle était dans la rue pour manifester, pour dire que le droit de manifester était un droit constitutionnel, un droit fondamental, et qu'on ne sait n'aidera pas aux interdictions de manifester qui se développent dans ce pays. Geneviève, c'est effectivement une militante de 73 ans, une militante infatigable depuis 50 ans sur Nice. Je pense que tous les mouvements sociaux à Nice connaissent Geneviève. C'est un peu une figure parce que c'est une militante engagée sur le terrain des droits des femmes, engagée au mouvement de la paix, qui a été syndicaliste à la CGT, engagée politiquement dans Ensemble et engagée à ATTAC. Elle en est la porte-parole sur le département des Alpes-Maritimes. Et Geneviève est quelqu'un qui est connu de tout le monde, toujours disponible, toujours prête à soutenir toutes les causes, celle des migrants aussi, et dans le département des Alpes-Maritimes, c'est particulièrement important. Et quand on voit Geneviève, quelques minutes avant la charge de police, dire tranquillement devant les forces de police, eh bien, je manifeste pour le droit de manifester de mes enfants et de mes petits-enfants, eh bien, on voit que c'est une femme absolument dynamique, courageuse, mobilisée, et qui de toute façon ne lâchera rien, et c'est aussi le message qu'elle nous a fait passer depuis qu'elle a commencé à retrouver un peu ses esprits depuis ce week-end. On a eu très peur parce qu'effectivement, elle a subi une charge de police extrêmement grave. Elle a eu une plaie à la tête très forte. Elle a eu plusieurs fractures du crâne, des fractures aux côtes. Elle est toujours à l'hôpital sous observation. Heureusement, ses jours ne sont pas en danger. Mais malgré tout, elle est sous surveillance parce que c'est quand même assez grave ce qui lui est arrivé. Alors, il y a trois plaintes qui ont été déposées au nom de Geneviève et au nom de sa famille hier. Une plainte pour violence, une plainte contre le préfet et une plainte pour subornation de témoins. Et il y a une plainte qui a été déposée par ATTAC aujourd'hui en parallèle par le même avocat sur la question des violences. Et je rappelle que Geneviève est porte-parole d'ATTAC 06 et à ce titre-là, ATTAC a une légitimité à porter plainte sur ces violences. On a appris que dimanche, alors que Geneviève était encore dans un état extrêmement fragile, était en des examens, était quand même pas en grande forme, elle a eu la visite de policiers et policières qui ont insisté de façon extrêmement importante pour lui faire dire que la personne qui l'avait bousculée était un caméraman et en aucun cas un policier. Évidemment, elle a refusé de rentrer dans ce jeu-là, mais c'est assez incroyable que dimanche, le lendemain même, alors qu'elle était à l'hôpital dans un état encore de choc, eh bien, les forces de l'ordre ont essayé de lui faire dire que c'était un caméraman, alors que toutes les images qu'on a maintenant à notre disposition montrent bien que c'est dans le cadre d'une charge policière qui n'avait aucune justification parce que le rassemblement était parfaitement tranquille, pacifique, bon enfant, qu'elle a été bousculée par les forces de police, qu'elle est tombée à terre, qu'elle s'est ouvert le crâne et qu'elle a plusieurs fractures aujourd'hui. On a été particulièrement choqués et particulièrement en colère en attendant cette déclaration d'Emmanuel Macron hier matin, parce que déclaration parfaitement hypocrite, parce qu'Emmanuel Macron est responsable largement pour une part de la situation de l'état de Geneviève, puisque c'est de fait de sa responsabilité de développer une logique de répression policière par rapport aux exigences sociales qui se manifestent notamment à travers le mouvement des Gilets jaunes. Mais aussi, ce qui nous a choqués, c'est effectivement sa phrase qui disait que, en gros, si elle était blessée, c'était de sa faute parce que à son âge, une dame de 73 ans n'avait pas à descendre dans la rue pour manifester. Et ça, c'est particulièrement choquant. Ça veut dire que le chef de l'État décide qui a le droit de descendre dans la rue. Et il considère qu'une dame de 73 ans, eh bien, n'a pas la légitimité de citoyenne à part entière pour descendre dans la rue. Et quelque part, ce qui m'a aussi choqué, c'est que je pense qu'il n'aurait pas fait la même remarque si ça avait été un homme de 73 ans. Monsieur Emmanuel Macron, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on ne règle pas une question sociale, on ne règle pas une crise sociale et on ne règle pas une colère sociale comme celle qui s'exprime dans notre pays depuis des mois, notamment à travers le mouvement des Gilets jaunes, mais plus largement à travers toutes les luttes sociales, mais aussi par rapport aux exigences d'égalité, aux exigences de justice dans ce pays. Eh bien, on ne le règle pas par la répression policière comme vous êtes en train de le faire. On ne le règle pas par une fuite en avant dans la répression et dans la violence policière de plus en plus importante et par les interdictions de manifester et par des lois comme celle, la dernière loi qui a été prise, cette loi dite anti-casseur. Eh bien, on ne règle pas les questions sociales de fond par ce type d'arsenal répressif. Et à ce jeu-là, eh bien, c'est la colère sociale qui va continuer à monter.
Ensemble, on lâche rien.
Bravo.
Merci à nos confrères de l'émission Là-bas si j'y suis pour ces échos de la manifestation de soutien à Geneviève Le Guay à Paris, cette dangereuse militante du groupuscule altermondialiste Attaque qui, rappelons-le, s'est constituée à l'époque pour taxer les flux financiers. Quelle idée saugrenue et antidémocratique, me direz-vous. Pourquoi pas rétablir l'ISF tant qu'on y est. Allez, sans transition ni arrête dans le poisson, on enchaîne. Comme lundi c'est fini, vous adorez ou détestez, dites-le nous en nous écrivant à radioalbiges@gmail.com ou appelez-nous au 05 63 60 60 36 ou laissez-nous un message sur la boîte vocale, la boîte locale au 05 63 77 61 75. Les messages seront diffusés en début d'émission la semaine prochaine dans les limites de notre charte et des règles du CSA bien sûr. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous soutenir financièrement. Retrouvez cette émission comme lundi en podcast sur notre site internet www.radioalbiges.com. Merci à Paul et Arnaud pour la préparation de ce magazine comme lundi et n'oubliez pas les thématiques des créneaux info de la semaine. Demain mardi c'est Loïc Colombier qui vous attend pour son bac sport si tout va bien. Mercredi c'est le créneau écologie avec Gardarem la Terre. On parlera de la journée de la biodiversité qui se passera sur le campus Font-Labour le 18 avril prochain. Jeudi toujours à midi et 18h, Clémentine vous présentera Line Nouvelles d'Apraki. Et enfin vendredi, c'est à tout arme le magazine en partenariat avec le conseil départemental. Bonne écoute et bonne semaine sur Radio Albices. Bonne écoute et bonne semaine sur Radio Albices.